Alors que la mort des 13 militaires français au Mali est encore dans tous les esprits, un autre soldat français a été grièvement blessé. C'était samedi 7 novembre, également au Mali. Alors qui sont-ils, ces jeunes militaires, prêts à risquer leur vie pour la France? Quelles sont leurs motivations? Comment se sont-elles forgées? Ces questions, je vais les poser ce matin à mes deux invités. Bonjour, Père Damien Haas.
Bonjour.
Vous êtes aumônier militaire sur la base de défense de Toulouse. Vous avez célébré une messe en mémoire des soldats tués au Mali, ici même à Toulouse. Je crois que dans l'armée, on vous appelle padré. Hein.
Tout à fait, c'est l'usage.
C'est l'usage. Alors je vais m'y adonner comme tout le monde. Capitaine, bonjour.
Bonjour madame.
Je suis très heureuse également de vous accueillir. Merci d'être là. Par discrétion, on ne donnera ni votre arme, ni votre nom de famille. Je peux juste dire que vous êtes jeune, 30 ans je crois. Hein.
C'était exactement ça.
Vous avez 30 ans, vous avez deux enfants. Vous êtes parti en opération extérieure, en OPEX, comme vos 13 frères d'armes qui sont morts le 25 novembre dernier au cours de l'opération Barkhane. Je crois d'ailleurs que vous les connaissiez, vous en connaissiez certains.
Hein. J'en connaissais quatre, effectivement. Oui.
Vous connaissiez quatre d'entre eux et l'opération Barkhane également, puisque vous y êtes allé également au Mali. Hein.
Exactement, j'ai fait un séjour là-bas.
Vous avez fait un séjour là-bas. Alors la nation leur a rendu un vibrant hommage, hein, c'était lundi dernier. Voir ces 13 cercueils dans la cour des Invalides, c'est quelque chose de très poignant pour le commun des mortels, pour tout le monde. Il y avait du monde d'ailleurs, massé sur le pont Alexandre III à Paris. C'est peut-être encore plus poignant lorsqu'on sait qu'il s'agit de très jeunes hommes, tout juste papa pour certains d'entre eux. Comment vous l'avez vécu, capitaine? Vous pensez à quoi à ce moment-là, vous?
Déjà, j'ai pensé à mes camarades de savoir qu'ils ont donné leur vie pour la France. Ils ont donné leur vie pour que nous restions libres ici en France. Donc c'est déjà un très beau témoignage qu'ils ont pu nous donner. Effectivement, j'ai pensé à leur famille. J'ai pensé aussi à nos camarades qui les entouraient et qui les entourent toujours. Donc ça, c'est important. C'est ce que toujours difficile quelquefois pour ceux qui restent aussi. Et pour les familles, effectivement, c'est des engagements qui sont dur à vivre, parce que nous, militaires, on choisit vraiment, et la famille, elle choisit indirectement, donc c'est toujours quelque chose qui est difficile, et notamment pour ces enfants qui connaîtront pas forcément leur père, puisque certains étaient très très jeunes, et où certains, il y en a même un des enfants qui n'est pas encore né, et du coup, c'est... Voilà,
Capitaine Bockel, je crois, hein,
ouais, tout à fait.
Capitaine Bockel.
C'est une abnégation vraiment très 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 difficile.
Est-ce qu'on se dit ça aurait pu être moi?
Oui, en soi, on peut toujours se dire ça aurait pu être moi, mais c'est pas ce qui va ralentir notre engagement, bien au contraire, il faut toujours continuer à avancer, justement pour être digne du sacrifice qu'ont fait nos camarades.
C'est des mots très forts que vous utilisez. Vous l'avez dit aussi, la famille, elle ne le choisit pas. L'épouse, elle vous choisit. Votre épouse vous a choisi et à travers votre engagement. Comment c'est géré, vécu en famille, ce risque, cette proximité avec la mort quand vous partez en OPEX? Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Comment ils le vivent?
Alors déjà, en fait, on le vit sur plusieurs points. Il y a déjà sur le point matériel où on essaye de protéger au maximum la famille, c'est-à-dire qu'on souscrit des assurances et des possibilités, parce que effectivement, on n'exclut aucune des possibilités, malheureusement. Et après, en famille, moi, je sais qu'avec mon épouse, on en parle de façon assez simple. Ça veut dire que, voilà, on se dit que telle photo serait assez belle s'il fallait la mettre sur un memento. Mais je ne vais pas plus loin que ça dans la réflexion qu'on peut avoir. Mais, et après, avec les enfants, bah, effectivement, on les salue et on dit au revoir à la famille au moment où on part, en se disant que peut-être que c'est la dernière fois qu'on les prend. Oui, forcément. Même si ça ne nous omnibile pas et ça ne va pas annihiler surtout notre capacité à nous engager et à aller remplir la mission pour laquelle on est missionné.
Et en OPEX, donc en opération extérieure, quand vous étiez, vous m'avez dit, au Mali ou ailleurs en Afrique, cette proximité, on y pense quotidiennement avec les frères d'armes, on en parle, c'est un sujet qui revient, ou bien on est dans le feu de l'action et puis ça...
Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas forcément. On peut tous, je pense, l'avoir à l'esprit par moment, en fonction des opérations sur lesquelles on va. Mais on vit. En fait, tout simplement, on vit. Donc, c'est pas quelque chose qui nous focalise toute la journée.
Padre, je me tourne vers vous. Vous êtes aumônier, donc militaire. Hein. Vous accompagnez ces garçons, ces hommes, notamment sur les terrains de conflit. C'est quoi votre mission près d'eux?
Moi, je me plais beaucoup à leur désigner le ciel. C'est ma mission en tant que prêtre que leur désigner non pas l'objectif de leur mission, mais l'objectif de notre mission, de notre vie, c'est-à-dire d'en désigner le ciel comme objectif de toute vie, et du coup, au travers de leur mission, de leur permettre de prendre les moyens de s'y préparer. Le soldat, quand il est en France, il passe son temps à se préparer en vue de ces opérations qu'il mène.
Mais désigner le ciel, finalement, c'est votre mission auprès de tout un chacun.
Exactement, mais elle se révèle d'une manière toute particulière auprès des soldats, de ceux que le diocèse m'a confiés.
Et ça se traduit par quoi, justement, cette façon de désigner le ciel auprès de quand vous êtes en terrain extérieur ?
Eh bien, que ce soit en territoire extérieur ou en territoire intérieur, j'allais dire, c'est tout simplement notre présence au milieu d'eux, qui est le signe, justement, de la présence de Dieu, qui est présent pour les accompagner, pour les soutenir.
J'aimerais vous lire un extrait du poème du capitaine Clément Frison Roche. Hein, c'est l'un des 13 soldats morts au Mali. Peut-être le connaissiez-vous, il était très jeune. Il faisait partie du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Il a écrit ce texte qui aujourd'hui a une dimension prophétique. Il l'a écrit en 2014. « Ô tendre France, douce gardienne de mon baptême, prenez ici ma vie. Je vous en fais le don, veillez sur ma famille et tous les gens que j'aime. Et rendez, je vous prie, mon sacrifice fécond. » Cette notion de sacrifice, c'est très fort tout de même. La vie, en fait, c'est pas un accident du travail qui vous arrive. Hein. Vous donnez votre vie.
Mais complètement, puisque ça fait partie du statut général des militaires. Et donc, du coup, ça fait partie de notre métier. Et c'est ce qui fait aussi la grandeur de notre métier, c'est la capacité à recevoir la mort, mais aussi à la donner. Et on le fait. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? C'est maîtrisé. C'est dans la mesure où on va offrir notre vie, où on va défendre notre pays. Donc on le fait pour le bien commun, donc pour un bien supérieur au nôtre. Et c'est ça qui donne toute cette valeur à cet engagement et qui est décorrélé de tout engagement qu'on pourrait avoir au niveau spirituel ou autre. Mais c'est vraiment, on le fait pour les autres. C'est un don complet. Ou si on reprenait des passages en disant quelqu'un qui n'a pas tout donné, il n'a rien donné. Et donc en fait, c'est le don total. Et c'est ça qui est beau dans le sacrifice qu'on va faire au profit des autres. Et c'est ce que relate le texte.
Et oui, le statut général des militaires, je l'ai sous les yeux, hein, stipule en effet que l'État, je cite, « l'État militaire exige en toutes circonstances esprit de sacrifice pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême. » Padre, je me tourne vers vous, il y a presque une dimension christique tout de même là-dedans, même si on a bien compris que c'était pas des soldats de Dieu, il y a tout de même une dimension christique, tout donné.
Effectivement, oui. Pour nous, chrétiens, mais je précise que dans l'armée, il n'y a pas que des chrétiens.
Bien entendu.
Mais pour nous, chrétiens, faire le don de soi, le don de sa vie, ça nous renvoie vers notre chef suprême, vers le Christ qui lui-même a donné sa vie pour nous sauver. Eh bien, d'une certaine manière, nous aussi, nous pouvons et nous devons, en tant que chrétiens, suivre le Christ et être prêts, être capables à donner notre vie, d'une certaine manière, pour le salut du monde, mais aussi, tout simplement, pour notre pays, pour nos concitoyens, ceux qui nous conduisent, justement, à œuvrer pour la paix loin de chez nous.
D'ailleurs, ce don, vous dites qu'il n'y a pas que des chrétiens dans l'armée, évidemment, il est peut-être même d'autant plus valeureux, j'ai envie de dire, lorsqu'on le rattache à aucune forme de transcendance. Tout donné pour son pays, mort pour la France, c'est ce qu'on entend, capitaine. Ça veut dire quoi pour vous ? Quel sens vous lui donnez, mort pour la France ?
Bah déjà, c'est mourir pour son pays, c'est-à-dire la terre de ses ancêtres. C'est la terre qui nous a vu naître et qui nous nourrit chaque jour. Donc c'est déjà mourir pour ça, c'est mourir pour un ensemble qui est plus grand que simplement son petit cocon personnel ou sa cellule familiale limitée. C'est on meurt pour un ensemble qui est plus grand, donc on donne sa vie pour la grandeur d'un ensemble. Et c'est là où le don est total, c'est qu'il n'est vraiment pas égoïste, c'est vraiment un don qui est offert pour un plus grand nombre.
À 18 ans, quand vient le moment de l'orientation, c'est à ça que vous pensez lorsque vous décidez à devenir militaire ?
Alors, ça, je pense que chacun a une analyse qui peut lui être assez propre.
Moi, mais au début, vous, capitaine ?
Moi, j'avais pas eu vraiment, au début, l'idée de rentrer dans les armées. J'y suis rentré par différents biais. Enfin, peut-être le temps de faire mûrir aussi ma réflexion et mon engagement. Mais effectivement, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur de me dire que je suis capable d'offrir quelque chose à mon pays et à l'ensemble des gens qui vivent dans mon pays. Et ça, c'est quelque chose qui est important.
Comment elle s'est forgée, votre vocation ? On a beau dire, être militaire aujourd'hui, ça n'a pas forcément bonne presse. Comment est-ce que c'est né dans votre tissu social, dans l'environnement qui était le vôtre à l'époque ?
Bien, moi, je suis pas issu d'une famille de militaires, donc en fait, j'ai fait mon raisonnement, on va dire, seul. Mm-hmm. Mais j'ai rencontré différentes personnes qui m'ont donné cette vocation et ce goût de l'engagement pour les autres. Et c'est ce qui m'a aidé dans ma réflexion. Et effectivement, cette envie de servir, La beauté de l'uniforme, ça attire aussi. Le prestige de nos armées est quelque chose de très révélateur. Et puis il y a aussi le fait du dépassement de soi, de l'engagement. Ça, c'est des valeurs qui sont fortes et qui motivent en général quelqu'un à franchir le pas de venir signer un contrat d'engagement.
Finalement, la beauté de vos paroles de tout à l'heure n'était pas forcément celle du jeune de 18 ans que vous étiez. La beauté, la grandeur de l'engagement, c'est peut-être la maturité qui vous l'a fait découvrir également ?
Mais peut-être aussi. Et puis effectivement, il y a aussi nos expériences militaires au fur et à mesure qui font que on apprend chaque jour davantage. Et donc du coup, on donne un sens qui peut évoluer à notre engagement militaire, et notamment au contact de situations difficiles qu'on peut vivre. Et effectivement, après, derrière, il y a une évolution dans notre situation personnelle.
Padré, je vous vois opiner. Vous êtes militaire parce que vous êtes aumônier militaire. Vous étiez gendarme avant d'être aumônier militaire. Il y a aussi cette dimension de servir.
Ben oui, bien sûr. Je l'avais noté en gros sur les petites notes avant de préparer notre intervention, c'est qu'on pense évidemment aux soldats qui s'engagent et qui partent loin de chez nous pour que nous puissions être en paix ici. Mais je voulais surtout ne pas oublier ce qui m'a fait grandir dans la foi, ce qui m'a donné ma vocation sacerdotale, c'est aussi ces hommes et ces femmes qui au quotidien travaillent pour notre paix ici sur le territoire, et la gendarmerie, vous y faites allusion tout justement.
La France a perdu 755 militaires en OPEX depuis 1963, 41 dans l'opération Serval puis Barkhane. La France est-elle reconnaissante de la mort de ses soldats ? Je reviens au capitaine Frison Roche qui est dans son poème, toujours son poème qui s'appelle « Pour que vive la France ». Et s'il m'advenait un jour de périr en ton nom, ce serait avec foi, mais non sans une question. France, ma France, qu'as-tu fait de ta reconnaissance ? La France est-elle reconnaissante ?
Bien, je pense que oui, la France est reconnaissante, et on le voit notamment par le monument spécifique pour les soldats tombés pour la France en opération extérieure, qui est un monument qui leur est dédié particulièrement et qui a été inauguré par le président de la République. Et donc du coup, ça montre déjà ce premier point de reconnaissance, puisque il n'y avait jamais eu ce type de monument pour le moment. On avait simplement les monuments aux morts qui retraçaient les deux guerres mondiales et auxquels avaient été ajoutés certains engagements en opération. Et donc là, déjà, je pense qu'il y a un vrai engagement. Et aussi, on a pu remarquer qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde sur le pont Alexandre III pour l'accueil des dépouilles de nos camarades. Et ça, c'est important de montrer, voilà, cet attachement, je pense, de la nation à son armée.
Père ?
Et oui, moi, je compléterais même que l'accompagnement ne s'arrête pas au jour des obsèques, au jour d'un hommage national, mais il perdure dans la durée. Et l'armée, la nation, la France donne beaucoup pour accompagner aussi bien les militaires blessés que les familles de défunts.
Merci infiniment à tous les deux de nous avoir permis d'ouvrir une petite fenêtre sur votre monde. C'était aussi une façon pour nous de rendre hommage à ces 13 militaires français au Mali. On pense évidemment au soldat qui est blessé et qui a été rapatrié en France. Merci Père Damien Haas, le padré, l'aumônier militaire de la base de défense de Toulouse. Et puis à vous, capitaine aussi, d'être venu nous donner un petit peu ce qu'est votre vocation. Merci à vous.
Merci madame.
Merci infiniment.